Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service de séjour. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Nous allons à présent parler de la trêve humanitaire. C'est quoi une trêve humanitaire? Quelle est son importance? Comment s'assurer du respect de cet arrêt, de cette trêve humanitaire? Voilà, on aura des réponses avec toutes ces questions avec nos invités. Eric Kamba, coordonnateur de l'ASBEL Congo Action pour une diplomatie agissante, CADA, et notre invité aujourd'hui. Eric Kamba, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. On aura également le professeur Martin Ziakiaou Lembisa, expert en relations internationales. Pour participer à cette émission, les standards sont déjà ouverts. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Billy Landry Betou, à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la réalisation et la coordination de cette émission. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous, on a tout suivi dans les médias qu'il y a une trêve. Les États-Unis ont annoncé une trêve humanitaire entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, on voudrait bien savoir, c'est quoi une trêve humanitaire, quelle est son importance, comment ça fonctionne, comment ça se passe concrètement. Eric Kamba est coordonnateur de l'ASBEL Congo Action pour une diplomatie agissante. Et cette organisation plaide plutôt pour un cessez-le-feu général en lieu et place d'une trêve humanitaire. Eric Kamba, bonjour.
Bonjour.
Bien, la première question est de savoir, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par trêve humanitaire?
Oui, merci beaucoup, mais d'entrée de jeu, j'aimerais ici, en tant que coordinateur des CADA, remercier les États-Unis pour la mesure. C'est en fait ce qu'il faut entendre par la trêve humanitaire, qui est en fait une pause temporaire des hostilités, faire taire les armes, si tu veux, en quelque sorte, mm-hmm. pour permettre aux victimes, aux vulnérables, personnes vulnérables de la guerre, des hostilités, de rentrer chez eux, et pour permettre aux humanitaires de venir en aide, d'assister ces populations-là. Donc, CADA tenait d'entrée de jeu à remercier les États-Unis pour cette mesure et aussi le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a exprimé son soutien à la mesure. La trêve, elle est de 2 semaines et elle vise à soulager, comme je le disais tout à l'heure, les souffrances de la population congolaise victime d'une guerre imposé, qui ne dit pas son nom. Voilà.
Bien, et une question qui me vient à l'esprit, pourquoi ce sont les États-Unis qui décrètent cette trêve?
Ben, je compte tenu de leur position géostratégique, ils sont super. On va discuter de tout ça, bien que il y a beaucoup de choses que CADA aimerait que ces puissances mondiales fassent. Et c'est la même question que je poserai aussi, pourquoi elles ne le font pas, pourquoi elles le font à ce moment ici. Je crois que ça fera l'objet de nos discussions. Parce que vous voyez, si et vous avez vu les accords, les arrangements entre la RDC et le Rwanda n'aboutissent pas. Donc si cette mesure, le Congo ne peut pas prendre cette mesure, le Rwanda ne respectera pas. Et le Rwanda ne peut pas prendre cette mesure, le Congo ne respectera pas. Donc une tierce personne peut, compte tenu de sa position, souvent l'ONU a toujours joué ce rôle ici, mais dans ce cas ici, les États-Unis ont fait ça. Je pense que ils font peser tout leur poids. Et parlant de cette trêve, je pense qu'ils ont même demandé à ce que tous les deux parties en conflit puissent respecter les mesures qu'ils ont prises. Faute de quoi, on ne sait pas. Mais quand ça vient des États-Unis, ben, je crois que les gens écoutent.
Et pendant cette trêve de deux semaines, les déplacés peuvent volontaires peuvent rentrer chez eux.
Oui, donc c'est en fait l'idée. Hein, l'idée c'est donner une petite bouffée d'oxygène à ces gens. Vous savez, c'est ça juste comme je le disais au départ. La population n'a rien à voir, n'a pas choisi d'être originaire de ce coin-là où il y a des minerais ou des conflits bouffent la plupart de leur temps. Le conflit tue les civils qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc, alors, il y a beaucoup déjà, nous parlons de 3 millions de déplacés internes. C'est énorme, ça. C'est vraiment inquiétant. La situation est désastreuse. Et ben, avec cette mesure, le volontaire, les gens peuvent rentrer chez eux. Et souvent, c'est une étape qui, avec beaucoup de négociations, peut amener à une autre étape qu'on appelle peut-être cesser de feu, et ainsi de suite. Mais c'est comme ça que CADA, compte tenu de notre expérience et de l'histoire et du passé. Et je crois que je ne veux pas vous prendre au mot. Il y aura peut-être des questions là-dessus de nos auditeurs. Nous ne pensons pas que c'est une grande chose. Ce qu'il nous fallait, ce qu'il faut pour le Congo, c'est immédiatement un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu général où on dépose les armes. Et ça, c'est quelque chose qui peut aboutir à une paix durable. Parce qu'une trêve, ben, c'est comme on le dit, c'est une pause temporaire. Donc, les hostilités peuvent toujours reprendre, les violations peuvent toujours se passer. Mais ils ont dit qu'ils allaient faire le monitoring, c'est-à-dire s'employer à ce que personne ne viole les mesures. Donc, nous pensons qu'ils en ont les mesures et qu'ils en ont les moyens.
Bien, donc voilà, c'est ça une trêve. Alors, mais quels sont, avant de parler de ce que vous CADA souhaiterait, on va accueillir Achille depuis Lubumbashi. Bonjour Achille.
Oui, bonjour, je dis bonjour tout le monde.
Bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la trêve humanitaire?
Bon, par rapport à la trêve humanitaire, pour moi, bon, ça concerne que moi, je considère ça comme une moquerie ou encore une insulte envers nous, les Congolais, surtout aux populations qui sont victimes. Parce que si les États-Unis prennent cette mesure, la trêve, donc la pause, à supposer que peut-être la guerre pourrait toujours revenir d'un moment à l'autre. Et pourquoi ne pas sanctionner directement si les États-Unis reconnaissent que c'est les Rwandais qui attaquent, qui agressent la RDC? Pourquoi ne pas sanctionner comme il le fait avec... comme ils le font avec le quoi, la Russie, la guerre ici, Ukraine, sanctionner directement et avec des lourdes sanctions, mais dire que non, la trêve, donc ça c'est, moi je considère ça comme vraiment une insulte. Moi c'est pourquoi moi je suis pas pour la guerre, parce que nous savons que la guerre est vraiment coûteuse sur tout le plan, mais que voulez-vous quand l'agresseur continue toujours de vous étrangler, à faire souffrir la population innocente? Quand les Rwandais nous larguent des bombes dans notre territoire, pourquoi ne pas faire la même chose dans leur territoire comme ça, les États-Unis et la communauté internationale va prendre au sérieux la situation et verra que non, c'est devenu maintenant, l'air est grave, comme ça, ils vont prendre au sérieux la situation. Mais quand notre État est calme, on cherche à se faire des bisounours, bon, ça va pas s'arrêter. Parce que depuis, moi, je suis auditeur de la radio Capi depuis des années. C'est votre journal. Il ne passe pas un jour. Dis-moi un jour où c'est passé que vous n'avez jamais parlé de la situation dans l'Est du pays. Donc, on va continuer à parler ça juste à 1000 ans. Et après, il n'y aura rien comme solution. Moi, je pense que le gouvernement congolais doit prendre les choses en main, couper tout peut-être les partenariats hypocrites et chercher d'autres partenaires. Quand les Burkina Faso l'a fait, ou les Mali, ou les Niger, ce qui essaie de tomber dans leur tête, je pense qu'il faut, dans même temps prendre des responsabilités. S'il faut faire la guerre, qu'on les fasse. Parce que trop, c'est trop. Merci.
Bien. Merci. Eric Kamba.
Oui.
Vous avez la parole.
Ah oui, je compatis avec mon compatriote de Lubumbashi et je comprends d'où il vient et où il va avec tout ça. Mais les réalités sont celles-là. Et vous savez, nous passons notre temps, quand je dis nous, c'est-à-dire nous les Congolais et les Africains en général, nous pensons que le salut doit venir de l'extérieur. Mais le compatriote a parlé. Si il rejette la trêve. Je ne sais pas si le compatriote a les moyens, lui, s'il a les moyens, ou s'ils ont un groupe à Lubumbashi qui a des moyens, ou au niveau du pays qui a des moyens pour faire ce qu'il dit là. Parce que si nous avions nos moyens, on ne peut pas attendre de l'extérieur. On le fait. Cette histoire n'a pas commencé hier. Hein, ça, nous autres. Je sais pas, ça fait 30 ans hein, que nous sommes dans cette guerre injuste. Bon, on a tenté tous les moyens. Je sais pas qu'on a tenté tous les moyens, mais on tente, mais on ne s'en sort pas. Et il y a l'hypocrisie, comme il a dit. C'est parce que nous sommes un pays riche et tout le monde convoite nos minéraux, mais on doit être sage, on doit être utiliser beaucoup de sagesse. Ben, on peut s'opposer aux gens, mais pour vous opposer aux gens, vous devez avoir vos propres moyens. Vous n'avez pas de moyens, donc il faut avoir des stratégies pour voir comment il faut faire. Donc, pour revenir à ce que je disais, je ne suis pas aussi d'accord avec la trêve. C'est pourquoi vous avez dit, nous étions parmi les premiers à élever notre voix pour dire que ce dont le Congo a besoin, c'est beaucoup plus un cessez-le-feu immédiat et général plutôt que la trêve. Mais j'expliquais à nos amis téléspectateurs,
auditeurs
qui ne comprennent pas, peut-être notre ami du Lubumbashi aussi, c'est quoi et pourquoi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été. Si vous voyez en Palestine là-bas, partout il y a des hostilités, et il y a toujours parmi les ébauches de solutions et cette possibilité-là. C'est donc les États-Unis ont utilisé ça. Mais nous devons faire des pressions. L'ami là, il faut se composer en groupe de pression pour faire beaucoup plus de pression, pour beaucoup plus parler, pour que ce qu'il parle là puisse se concrétiser. Donc, mais et ils ont quand même fait ça. C'est pas suffisant, c'est rien du tout, mais ils l'ont fait. Et les gens continuent à mourir. Donc nous, on fait ce qu'on peut faire. On n'est pas d'accord. Et évidemment, je répète parce que au Congo, les gens ont tendance toujours à coller les gens. De qualificatif et tout ça. Je ne suis pas d'accord. Le CADA n'accepte pas ça. Mais au moins, ils disent que c'est quelque chose. Mais ce que nous voulons, c'est un cessez le fait immédiat et général qui doit aboutir à une paix durable parce que cette histoire a trop duré. On peut parler, mais est-ce que nous avons les moyens de nos actions et c'est ça ce qui importe. Nous pouvons parler du matin au soir, mais comment on va concrétiser ça? Donc il faut travailler avec les autres. Parfois il faut travailler avec les ennemis pour aboutir à ce que nous voulons. Parce que nous sommes dans une position de faiblesse. Si on avait des armes, si on avait, ben je te dis, on aurait déclaré la guerre, on aurait fait tout ce que l'ami dit là. Mais malheureusement, on peut se fâcher, on peut dire ça dans cette émission, mais nous n'avons pas les moyens de nos actions. Ça,
oui,
il faut le
Eric Kamba.
Je ne sais pas si.
Eric Kamba.
Pardon?
Oui, vous avez dit tout à l'heure que la trêve humanitaire, c'est pour permettre aussi aux populations déplacées de faire un retour volontaire. Pensez-vous que ces gens vont accepter de retourner dans leur milieu, sachant que des semaines après, les combats vont reprendre?
Oui, bon, vous avez, c'est ici une possibilité d'éduquer aussi de donner l'information aux auditeurs. Personnellement, je vous ai donné d'abord la définition et ce qu'on entend par là. Mais quand vous me demandez à moi, je vous ai dit que je veux que ça voulait rien dire. Dans notre intervention que nous avons fait à l'OCAPI, nous leur avons dit d'abord que nous avons dit au monde entier qu'on n'était pas d'accord avec ça. Et pour poursuivre avec ce que vous dites là, personnellement et à l'ACADA, l'histoire est là, fort de l'histoire, nous nous refusons d'accepter ce genre de sémantique parce que ça prête beaucoup à confusion. Aujourd'hui, on parle des trêves humanitaires. On va peut-être encore revenir. Vous savez, on parle aussi de couloirs de sécurité. On parle aussi de zones sécurisées, de couloirs sûrs. On parle de beaucoup de choses. Et parfois, c'est comme vous avez dit, hein, les groupes armés peuvent profiter de ce qu'on appelle couloirs pour amener des matériels militaires qui alimentent le conflit. Mmh. Les groupes armés peuvent cacher des troupes de combattants parmi les civils dans des zones supposées sûres ou dans les corridors. Et pendant ce qu'on appelle les trêves humanitaires, il y en a qui peuvent violer ces mesures et faire tout ce que je viens de dire là, cacher des armes, alimenter le conflit. Donc c'est pourquoi, et même... Pour revenir à votre question, c'est le cas de la Palestine, par exemple. Nous avons vu, je ne suis pas ici pour faire le plaidoyer de la Palestine, vous avez vu, on déplaçait les gens hein, et pendant les hostilités là en Palestine, et puis on les a mis en Cisjordanie, à la Gaza, et nous, à Kada, nous craignons que tout sémantique-là, you know, et peuvent amener nos populations à être déplacées parce que on les déplace, ils rentrent plus là où ils étaient et ils vont aller à un nouvel endroit et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi nous voulons voir avec l'ami qui est en ligne là-bas, nous voulons travailler ensemble pour demander un cessez-le-feu, pas de sémantique. Ils sont venus avec la trêve humanitaire. Nous soulignons,
nous proposons un cessez-le-feu.
Nous disons merci parce que c'est quand même, ils ont pensé à ça. Une trêve, c'est pas une mauvaise chose. C'est une petite étape, comme je l'ai dit plus tôt. Mais ce que nous voulons, c'est un cessez-le-feu. Pourquoi ne peut-on pas, pour revenir à ce que l'ami disait, pourquoi ne peut-on pas carrément mettre fin à la guerre, mettre fin à ces hostilités? Parce que s'ils ont le moyen de faire le monitoring, d'observer, d'être sûr que les mesures de trêve humanitaire soient respectées, donc ils peuvent être aussi en mesure d'être sûr de protéger les mesures d'un cessez-le-feu.
Bien.
Donc, c'est ça ce que nous leur demandons.
Bien,
ça, c'est
Eric. Bien. Oui. Mmh. On va accueillir d'autres auditeurs, Justin Kalabia de Bounia et Kisimba de Kinshasa. Justin, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la trêve humanitaire?
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à notre compatriote invité. En tout cas, c'est avec beaucoup d'amertume, mais quand j'attends notre invité en train de défendre la thèse, de contredire mon compatriote de Lubumbashi, M. Jody. Peut-être il ne sait pas que nos frères, nos mamans, nos sœurs, nos enfants, mais à Kanyabayonga, à Rutshuru, à Bunagana, et voire même à Massissi, M. Jody. C'est avec beaucoup d'amertume. Quand on nous parle et quand j'attends de notre intervenant, ça me fait couler les larmes, monsieur Jody, parce que nous avons beaucoup perdu, en tout cas, dans cette guerre des M23. Nous avons le gouvernement. Comment un groupe armé, monsieur l'invité, comment un groupe armé peut dépasser un gouvernement? Alors que nous avons il y avait des accords, il y a la SADC, il y a des accords. On nous a amené encore les Ougandais pour nous sécuriser, alors qu'ils travaillent à complicité avec les M23. Malgré que Kinshasa est à complicité, parce que Nanga, il fit président de la CENU, monsieur, aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est avec nos terroristes. Il est avec les terroristes. Hier, on avait tué les Ouazalendou à Goma. Et aujourd'hui, les Ouazalendou sont devenus, monsieur, aujourd'hui, nos... Ce sont eux qui nous sécurisent. Ils travaillent maintenant avec les FRDC. Vous voyez cette cacophonie que le gouvernement nous crée, nous attaque le peuple congolais. Nous souffrons. Nos mamans meurent. Et ça nous fait, monsieur, aujourd'hui... Quand on parle de cette histoire de trêve humanitaire, je ne pense pas que moi, je ne suis pas pessimiste quant à ça. Mais quand on parle de la trêve humanitaire, c'est une bonne chose, monsieur l'invité. Mais est-ce que le gouvernement manque les moyens? Quand vous parlez de la Russie, Ukraine, est-ce qu'il y avait un dialogue? Mais la Russie a frappé jusqu'à mettre fin à cette histoire de l'Ukraine, monsieur, aujourd'hui. Alors, ne faut pas nous amener de l'histoire de l'Ukraine ici au Congo, alors que chaque pays ou chaque continent a ses réalités.
Mais merci. Nous, en tant que le Congo, merci, Justin.
Nous avons tant à faire.
D'accord.
La question, j'ai une question.
Quelle est la question? Oui, laquelle?
La question est celle de savoir, est-ce que cette histoire de trêve, la trêve humanitaire, prendra seulement 15 jours ou 14 jours, voulais-je dire, alors que les terroristes de M23 continuent à occuper des milliers à Masisi, à Rutshuru, alors qu'il y a aussi plus de 2 ans que les M23 occupent Bunagana. Ils créent même leur service, monsieur, aujourd'hui. Merci beaucoup, alors que j'ai vraiment beaucoup de regrets pour notre invité. Merci et bonne journée.
Merci d'avoir appelé Kissimba. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la trêve humanitaire?
Oui, bonjour monsieur Jody Daniel Kachama, bonjour aussi à l'invité, à tous les auditeurs et auditrices de la fréquence de la paix, c'est Kishima Albert depuis la ville province de Kinshasa. Et à mon avis, cette trêve n'a pas raison d'être. Et je me pose d'abord la question de savoir à qui véritablement profite cette dernière. Et si la dernière est observée de notre côté jusqu'à présent, c'est parce que notre capacité de nuisance devant notre adversaire paraît fragile. Entre-temps, les États-Unis est en train de faire dévoiler devant la face du monde que ce sont eux qui sont les commanditaires de ces conflits à l'est de notre pays. Comment se fait-il que quand les M23 font leur raid à partir de Bunagana, Kingerero, Rumangabo, Kibumba, Bushushia, partout là, ils ne décrètent pas une trêve. Mais jusqu'à ce qu'ils s'approchent près de Butembo et les Ouazalendo s'organisent pour faire les contre-offensives, et les États-Unis décrètent une trêve. À mon avis, comme Kagame s'approche à l'organisation des élections, connaissant très bien qu'il est toujours dictateur, ils lui ont réservé ce temps-là pour faire retirer les troupes qui ont été engagées pour la récupération de Kanyabayonga, afin de pouvoir s'organiser pour réprimer les opposants lors de sa fraude électorale organisée au niveau du Rwanda. Et à nos autorités, jusqu'à quand attendent-elles pour changer les partenaires afin que notre dignité, qui a été respectée depuis l'époque de ce Marshall, puisse encore être revenu aux Congolais à ces jours. Merci pour la parole, Makobi.
Bien, merci. Monsieur Eric Kamba, à vous la parole.
Oui, mais monsieur le Capu, on doit aussi éduquer, c'est ça le problème de nous Congolais, hein. On peut avoir étudié, mais il faut avoir, savoir respecter les gens, et c'est pas des attaques personnelles, et on a les responsabilités d'écouter ce que les autres disent. Mais les gens s'en prennent à moi, et le gars qui c'est un ami ou quoi. J'ai l'impression que lui, c'est en français, nous parlons en français, devons-nous parler en swahili? Il me colle des histoires que je n'ai même pas dit. Vous vous avez demandé la définition, je vous ai donné la définition, je vous ai pas dit que j'étais pour ça. Il ne m'a pas suivi, il ne fait aucun effort pour suivre ce qu'on dit. Il saute, il dit des histoires et pour ça peut embrouiller les auditeurs. En aucun moment, j'ai même fait un article où j'ai dit que je n'étais pas contre la trêve. Monsieur, je suis contre la trêve humanitaire. Dois-je répéter sans swahili? Dis-moi si je dois respecter sans swahili. Hein? Nous devons savoir nous respecter. Il faut écouter les émotions. On a tous des émotions. En aucun moment, moi, je ne supporte les États-Unis. Nous sommes ici pour nous débattons les idées. Je ne supporte pas. J'ai repris la déclaration des Américains, comme ils ont dit, et nous l'analysons. J'ai même dit que ce qu'il nous faut, c'est un cessez-le-feu. Pour la millième fois, moi, je le dis. Donc, ne me collez pas de trucs. Au Congo, on a déjà développé cette spécialité-là de coller aux gens de trucs comme ça, etc. Donc, je me répète. C'est que moi, j'ai dit, je me suis dit que nous devons avoir la politique de nos moyens. Nous devons avoir les moyens pour pouvoir faire ce que nous voulons, les desiderata. Si nous voulons aller en guerre, on ne va pas en guerre comme ça pour le plaisir d'aller en guerre. Il faut aller en guerre, il faut avoir les équipements, les matériels de guerre, etc. Et la capacité humaine, etc. Donc c'est de cela que je parle. Mais si ils ont décrété la trêve, ne venez pas, je ne travaille pas pour le gouvernement américain. Nous discutons, nous parlons, c'est quoi cette histoire de trêve? C'est de ça qu'on parle.
Bien sûr.
Donc, ouais. la possibilité de la position de Kada, c'est que Kada est pour un cessez-le-feu, monsieur.
Oui.
Donc, il faut écouter ce que les gens disent, s'il vous plaît.
Et pour avoir un cessez-le-feu, qu'est-ce qu'il faut?
Ben, ce que je vous dis, le gouvernement, c'est les plaidoyers, c'est la politique, c'est la diplomatie. Donc, on a demandé à ce que notre gouvernement doit peser de son poids, doit faire une diplomatie pour arriver à avoir des décisions comme ça qui sont prises à sa faveur. Mmh. Donc c'est un travail d'ensemble, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Mmh. Vous pouvez crier, vous pouvez vous fâcher contre les gens, ils vont pas le faire. Les gens voient les intérêts, vous devez savoir le Congo c'est quoi, c'est un pays qui est riche et tout ça, et ça convoitise les pauvres, les gens qui nous entourent, qui sont pauvres, ils se disent mais ces gens ils ont toutes ces richesses. Et tant qu'ils ne s'organisent pas, nous, on profite.
Monsieur Rikamba, oui. Est-ce que dans deux semaines, c'est le temps est suffisant pour permettre aux humanitaires, par exemple, d'acheminer les vivres
Je ne suis pas... Oui, je ne pense pas que ce soit suffisant, mais je n'étais pas dans leur... je ne sais pas ce qui les a poussés à déterminer deux semaines, mais je pense que dans un premier temps, ils ont voulu d'abord peut-être observer, voir ce que ça va donner d'abord, parce qu'on ne va pas avec il faut d'abord peut-être essayer ça, voir ce que ça donne et passer à l'étape suivante. C'est ici l'occasion pour la société civile, le gouvernement congolais, à s'exprimer, à dire ce qu'ils veulent. Kada était par exemple le premier à dire que c'est un cessez-le-feu qu'il faut. Parce que dans deux semaines, est-ce que 3 millions de gens, je vous ai parlé de 3 millions de déplacés internes, il y a peut-être plus. 3 millions, c'est peut-être pas ça le nombre. Mais est-ce que 3 millions de gens vont pouvoir rentrer? Et vous avez posé une question, je ne sais pas si c'est un de nos auditeurs ou qui a demandé, est-ce que les gens seraient vraiment à même de rentrer chez eux paisiblement? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut considérer. Donc ils se sont donné des semaines pour voir... Et puis en plus, voir ce que ça va être. Mais ça nous a passé à nous, Congolais. Mmh. Il faut organiser des forums comme ça. C'est à nous, pas seulement pour parler, pour le plaisir de le faire. On doit parler. C'est nous qui votions nos dirigeants. Nous devons pousser nos dirigeants à prendre des actions qui vont sauver le Congo, qui vont dans notre faveur. Ils doivent. Il faut faire ces émissions ici avec les gens congolais. Ils doivent parler. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent? La diplomatie. Nous devons tous s'engager dans cette diplomatie-là. Kada, si vous ne le savez pas, peut-être donnez-moi une minute pour vous expliquer. Nous avons demandé au gouvernement congolais d'être leur partenaire pour faire de la diplomatie de couloir. Parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises. C'est-à-dire rencontrer les mêmes officiels, mais en officier pour discuter, pour leur expliquer clairement calmement le problème.
Les enjeux,
afin que quand nos dirigeants viennent, le problème peut être bien compris. C'est de ça. Vous avez vu Henry Kissinger, vous avez vu depuis la nuit des temps, et toutes ces histoires-là existent. On envoie des émissaires avant qui déblayent les terrains, et ça permet au gouvernement de faire leur travail. Voilà.
Bien, on va accueillir Maître Omar Kigalo de Kinshasa et Roger Marcel, qui est aussi à Kin. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, et bonjour aux invités.
On vous écoute.
Merci beaucoup, très cher Jeudi Diverbe, que vous m'adjugez. Je remercie l'invité de Lubumbashi pour avoir déjà défini la trêve. Si cette émission était mélodie, mes partitions seront celles-ci. La première, c'est sur le plan de la forme. L'invité, vous l'avez présenté comme un expert en relations internationales, c'est-à-dire les relations entre États. Et ces relations sont régies par deux textes majeurs. La charte de l'ONU, qui a été adoptée, je crois, en 1945, et la convention de Vienne de 1969, qui régule les rapports entre États. Il n'y a que sur bas de ces deux textes qu'un autre État peut donner des injonctions à un autre. Jusqu'à ce jour, sur le plan de la forme, je me pose mille et une questions en vertu de quel principe les États-Unis, puissants fussent-ils, se sont permis de donner des injonctions à un État souverain. Car, si vous lisez la charte de l'ONU, sur le chapitre 7, seul le Conseil de sécurité ou un membre permanent avec le mandat du Conseil de sécurité peut donner des ordres. Déjà, sur le plan de la forme, ça échoue. Par rapport à la Convention de Vienne, il peut arriver que des États, deux États, conventions bilatérales ou plusieurs États, conventions multilatérales, se décident de réguler les rapports. Ce n'est que sur bas de texte qu'on peut agir. Jusqu'à ce jour, je me pose la question de savoir en vertu de quoi les États-Unis ont agi, si ce n'est que la puissance aveuglée qui cache beaucoup de mauvaises intentions. Donc, sur le plan de forme, cette trêve n'a pas un fondement juridique. Deuxièmement, sur le plan de fond, M. Jody, si vous lisez Alain Pellé, un des grands relationnistes, un des grands doctrinaires en droit international, il pense que la trêve a trois buts. Le premier, c'est de créer un couloir humanitaire, permettre à ce que la population passe. Parce que même pendant la guerre, on doit observer les règles du droit humanitaire. Deuxième objectif, c'est humaniser la guerre. Parce que le but de la guerre n'est pas de tuer la population civile. Non, c'est de triompher par rapport à un but précis. Et enfin, de favoriser la relation diplomatique. Est-ce que ces trois buts ont été atteints? Parce qu'au niveau des ondes, tant internes qu'internationales, on apprend que les rebelles continuent à attaquer. Même sur le plan de fond, cette trêve n'a pas son sens d'être. Pourquoi, mais je l'ai dit, monsieur, je dis, comment pouvez-vous imaginer un État, je cite les États-Unis, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, vient d'adopter une récente résolution, mettant encore en embargo la RDC, va encore avoir un intérêt à mettre la trêve. Vous devez le savoir. Nous avons aujourd'hui au Congo ce qu'on appelle en droit international les conflits armés internes internationalisés. C'est-à-dire un État indépendant comme la RDC fait face à un groupe rebelle soutenu par un État connu et par des puissances occidentales. Donc, en réalité, ce n'est qu'une trêve sur le plan structurel pour amuser, pour maquiller, mais en réalité, il y a un but précis comme l'a dit un des prédécesseurs. En tant que Congolais, on doit s'élever, dire non à cela, car il n'y a aucun fondement juridique et un fondement sociologique. Pour finir, parce que le temps fait défaut, moi je pense que la vraie solution, monsieur Jody, passe par deux piliers. Le premier pilier, c'est le renforcement des forces armées. Les Niger, les Burkina Faso, l'autre pays là, ont montré qu'avec des jeunes de 38 ans, de 39 ans, un pays peut s'élever et partir. Ceux qui sont puissants n'avaient pas quatre cerveaux, ils en avaient un seul. C'est vrai que c'est difficile, mais avec la volonté, on peut y arriver. Deuxième pilier, c'est l'action diplomatique. On doit cesser avec des actions diplomatiques cosmétiques.
Maître Omar, mais on a appris que l'embargo dont vous faites allusion sur les armes ne concerne pas le gouvernement congolais, mais les groupes armés, les groupes négatifs.
Ah, si tel est le cas, je remercie les seigneurs, parce que moi je suis sur la voie des ondes, je n'avais pas la précision. Si tel est le cas, alors je retire ce que je dis, parce que nous avons également les devoirs d'être clairs. Mais selon ce que j'avais suivi, on avait également. Ça concerne pas la RDC, gloire à Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, très cher Jody, nous avons affaire à un conflit interne, internationalisé, c'est connu. On ne peut pas espérer à ces forces internationales qui n'ont rien fait. La solution passe par la vraie action diplomatique, c'est-à-dire une coopération directe. Nous ciblons les 9 pays voisins, nous causons avec eux. Qu'est-ce que vous voulez, on peut vous les donner. Nous attaquons les puissances occidentales, là, États-Unis, France. Nous leur demandons ce qu'ils font réellement, parce que c'est démontré noir sur blanc avec les rapports de l'ONU qu'au-delà du Rwanda, il y a des forces nationales. Donc, les renforcements des forces armées avec une volonté politique déterminée, une capacité d'organiser les choses,
ainsi que l'action diplomatique, être en mesure de faire comme les Burkina Faso, les Niger, dire aux Occidentaux, vous êtes puissants, mais nous ne voulons pas de telles choses et on peut le faire. Merci, M. Jody, pour l'information corrective par rapport à l'embargo. Je vais encore vérifier et revenir.
Bien, merci Maître Omar. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa. Nous parlons de la trêve humanitaire. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, Monsieur Jody, et bonjour à notre invité, et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. Je trouve que ça fait vraiment mal, parce que j'ai entendu ça quand les États-Unis ont publié ce communiqué-là. C'est notre gouvernement qui était vraiment très content en disant non, c'était une diplomatie agissante. Mais moi, je trouve que les grands pays comme la RDC ne pouvaient pas attendre qu'on puisse attendre le communiqué des États-Unis pour être réjouis. Nous sommes un État souverain. Le vrai problème, c'est que notre gouvernement pouvait s'organiser, parce que vous savez que la guerre qui est à l'Est, c'est une guerre imposée par les Occidentaux. Lorsque nous sommes distraits, peut-être à travers les 15 jours ou bien les jours qu'on a donnés, les ennemis peuvent profiter et entrer et profiter d'autres territoires. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, notre gouvernement pouvait être beaucoup motivé et puis s'organiser vraiment à l'interne. Parce qu'on ne peut pas être distrait avec des têtes de communiqué pour dire non, non, c'est une diplomatie agissante. Ça prouve que non. Si on s'organise quand même, on pourra gagner cette guerre. Qu'on ne soit pas distrait. Parce qu'attendre les États-Unis, dire c'est déjà ça, ça montrer au monde que ce sont les Occidentaux qui nous ont imposé cette guerre. Ça fait autant de jours que Bunakan est occupé et d'autres territoires sont occupés. Pourquoi pas avoir même les grandes puissances là dire un mot pour que la guerre qui est à l'Est puisse être arrêtée. Mais ça fait des années qu'on perd nos citoyens. Pourquoi pas prendre un peu des mesures qui seront vraiment efficaces pour toutefois que cette terre-là ne puisse pas être toujours à l'Est de notre pays, que nous perdons toujours nos citoyens. Je trouve à travers notre gouvernement et les chefs de l'État puissent prendre un peu des grandes décisions. On ne peut pas être lâche à toutefois en train de plénéchir. Un président de la République, c'est un président qui prend des décisions qui aident quand même la population. Regardez, ça fait plus de 10 millions qu'on a perdu nos citoyens congolais. Moi, je trouve un peu à travers la trêve internationale, là, c'est une distraction. C'est la façon de le distraire. Lorsque nous nous fâchons à cette trêve-là, nos ennemis sont là en train de s'organiser. Nous aussi, à l'interne, qu'on s'organise au lieu d'avoir des futilités inutiles, qu'on puisse être unis. Je pense que Rwanda, c'est un petit pays. À part Rwanda, il y a Ouganda et les autres pays qui sont prêts, qui soutiennent un peu le M23 et les autres. Pourquoi on s'attaque toujours au Rwanda? Il faut aussi s'attaquer aussi à Ouganda. Parce qu'avec le M23, Aïe a passé vers l'Ouganda pour entrer dans les territoires de Bunakan.
Merci Roger Marcel. Merci beaucoup. Donc, la trêve peut être une occasion pour s'organiser. Héritier, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Je voulais
aussi placer un mot par rapport à la trêve.
Oui.
Moi, je pense que la trêve marque la mauvaise foi des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré une trêve et nous avons vu un accalmie sur le terrain. C'est-à-dire, ils sont capables de nous aider à pouvoir résoudre cette crise, mais ils ne le font pas. Nous n'avons pas vu les belligérants autour d'une table pour déclarer et pour arranger cette trêve, mais une simple déclaration des États-Unis a poussé à l'accalmie sur le terrain. C'est-à-dire, il y a une très mauvaise foi des États-Unis et je pense qu'ils sont aussi, ils contribuent pour beaucoup dans ce conflit un conflit malheureux que nous sommes en train de vivre au niveau de l'Est. Donc, pour notre part, vraiment, nous devons faire vraiment très très attention pour que nous puissions consolider les efforts autour de notre armée afin de pouvoir nous défendre. Parce que nous sentons que nous sommes incapables de nous défendre. Et si nous sommes incapables de nous défendre, il y a le plan B, c'est la négociation. Aussi, du point de vue de la négociation, nous sommes aussi dans l'impasse. Parce que pour négocier, il y a des conditionnalités. Nous devons être forts sur le terrain. Mais du fait que nous ne sommes pas forts sur le terrain, c'est-à-dire, même sur la négociation, nous ne serons pas forts. En tout cas, il faudrait que nous puissions vraiment bien réfléchir, que les techniciens, les scientifiques, les patriotes congolais puissent se mettre autour d'une table pour voir comment il faut trouver une solution. Parce qu'il y a des morts à l'Est, parce qu'il y a des pleurs, il y a la souffrance. Tout ça, ça profite à qui? Donc, à un certain moment, nous devons nous regarder face à face pour que nous puissions trouver une solution et une solution durable. Mais je pense que ça montre une très mauvaise foi des États-Unis d'Amérique de pouvoir déclarer ça. Ça montre qu'ils sont quand même assez forts, assez capables pour pouvoir nous aider, mais ils ne le font pas. C'est-à-dire, ils sont complices. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Bien. Thomas, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Rebonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditeurs.
Oui, quelle est votre préoccupation par rapport à la trêve humanitaire?
Merci. D'entrée, l'idée, les gestes que veulent déposer les États-Unis à soi sur la trêve là, humanitaire, c'est quand même salutaire parce que ça témoigne du fait que le président aussi a quand même joué. Lorsque les États-Unis se pointent avec de telles actions, je pense que c'est quand même une bonne chose. Mais nous, on se demande concernant les 14 jours, parce que moi, je pense que les trêves là de 14 jours pour l'action humanitaire, je pense que c'est trop peu, parce qu'on risquerait même de ne rien faire. Durant les 14 jours qu'on a demandé, je pense que les 10 semaines là, c'est quand même très court au regard de la situation qui se vit au nord du Pakistan.
Et Thomas, quel est votre souhait? Vous souhaitez que ça soit prolongé de combien de jours?
Même à un mois, mais ça c'est seulement le point de vue à ce qui concernait mais on ne peut pas quand même ignorer la position des États-Unis. Moi, je pense que les États-Unis ont toujours condamné, mais pourquoi le cessez-le-feu? Ils devaient dire directement, s'adresser au Rwanda de retirer leurs troupes au niveau du M23, de retirer le Rwanda sur notre sol. Ça serait une bonne chose que de dire des trêves, hein, parce que ça ne peut rien changer sur le terrain. Les rapports, ça a déjà démontré que nous sommes agressés par les Rwandais. Quoi encore de poser l'action des trêves humanitaires? Je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. Normalement, les États-Unis devaient quand même toutefois dire aux Rwandais de retirer leur M23 au niveau de nos frontières au lieu de demander des trêves. L'idée, quand même, c'est génial, mais on connaît d'abord la position des États-Unis qui est pire, je peux même dire ami du Rwanda. Moi, je pense que ça ne peut rien changer. Alors que ça nous embrouille pour rien avec ces trucs-là. C'était ça ma contribution.
Bien, merci Thomas de Bounia. Nous parlons de la trêve humanitaire. Quelle est son importance? Comment elle doit s'observer? Monsieur Eric Kamba, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ASBL CADA, Congo Action pour une diplomatie agissante. Vous avez suivi les avis et préoccupations des auditeurs. À vous la parole.
Oui, que je respecte beaucoup d'ailleurs, hein, chacun. Vous savez, on dit la parole est libre, hein, c'est ce qui manque chez nous. Nous devons être en mesure de nous exprimer, hein, il n'y a pas, chacun exprime son opinion, c'est ça l'esprit même de la démocratie, même si on n'est pas d'accord, mais la parole est libre. Bon, et ben voilà, je suis quand même content que certains de les intervenants ont quand même reconnu et la position de CADA est claire, que d'entrée de jeu, nous avions élevé notre voix pour dire que ce qu'il faut au Congo, c'est un cessez-le-feu, tout simplement. Donc arrêter la guerre, ça doit être clair, parce que on ne voudra pas terminer cette émission en donnant l'impression à nos auditeurs aux Congolais que nous soutenions cette trêve. Nous avons dit que c'était quelque chose, mais c'est pas, c'est comme le dernier intervenant a dit, mais ce n'est pas ça ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est ce que les hostilités prennent fin. Et nous sommes en diplomatie, nous sommes en politique, et bien sûr, les émotions n'ont pas tellement de place. Il faut, dans la diplomatie, il faut... Quand on vous donne quelque chose, ça va d'abord dire merci et puis faire des négociations, faire des histoires derrière la maison, la nuit, etc. pour faire entendre sa voix. Donc, ils n'étaient pas obligés de le faire. On peut crier comme on veut, on peut dire qu'ils sont injustes, on peut, voilà. Et ben, la vie continue. Bon, ils ont quand même fait ça, mais c'est à nous de faire les pressions, comme je vous ai dit, faire les pressions pour dire que ce que nous voulons, c'est, quand je dis nous, c'est le gouvernement. Dans d'autres pays, il y a des groupes de pression qui n'attendent pas seulement les émissions. Moi, j'aimerais que nos intervenants ici, chacun, là où il est, il faut s'organiser pour tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on a dit dans cette émission ici. Eh ben, il faut que ça leur arrive aussi. Il faut que ça commence à bouger déjà là où vous êtes, au niveau du pays. Et c'est comme ça qu'il y aura un changement. Les gens parlent de Burkina Faso, les gens parlent de tous les changements là. Mais ça commence là où vous êtes. Donc, à ce niveau ici, nous ne devons pas attendre que tu viennes d'ailleurs. Mais on doit saluer quand même les efforts, les petites histoires que les autres font à notre endroit. Mais tout en leur disant que ben, ce que nous voulons, c'est ça. Et voilà ce que je peux dire. Une trêve en soi et de 2 semaines, c'est pas suffisant. On a parlé de 3 millions. Je vous ai donné les nombres. Je ne sais pas si le chiffre là est exact. 3 millions de déplacés. Je ne pense pas en 2 semaines que ces gens-là vont tous rentrer chez eux. Et nous, je vous ai aussi donné les inconvénients qu'il y a dans ces histoires de trêve-là, où le conflit est alimenté, où il y a beaucoup de choses qui se passent. D'où la solution pour Kada, c'était de voir ces choses-là prendre fin, donc un cessez-le-feu. Le dernier intervenant l'a dit, il nous a rejoint. Si les États-Unis peuvent donner un mot et les gens respecte ça, donc ils peuvent aussi dire qu'il y a un cessez-le-feu et les gens doivent respecter. Donc notre gouvernement, nous tous, nous devons travailler ensemble pour les amener à dire ce mot-là. Voilà.
Bien. Alors Thomas a proposé que, au lieu de 2 semaines, on pouvait prolonger la trêve à 1 mois.
Non, mais moi, je ne pense même pas que... Je vous dis, le pour Kada, c'est un cessez-le-feu. On peut prolonger, même si on prolonge, quand les hostilités reprennent, ce sont les gens qui vont encore mourir. C'est les civils, malheureusement, qui n'ont rien à voir. Donc, il faut un cessez-le-feu, je le répète.
Bien.
Notre position est claire depuis le premier jour. Oui. C'est un cessez-le-feu immédiat, général et durable.
Bien, on va terminer avec la question ou la préoccupation des Godets qui nous appellent des Kikuites. Godé Kidiongo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité. Vraiment, mes condoléances d'abord aux Congolais qui se trouvent à l'Est, sur les 3 000 réfugiés, plus de 3 000 réfugiés là. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire, nous sommes très tristes, 3 millions. Nous sommes en train de pleurer ici dans la ville de Kikwit, à nos compatriotes qui se trouvent à l'Est. Vous savez, les Américains ont senti quoi? Ont senti la défaillance des Congolais. Puisque les 3 millions là, les réfugiés qu'on parle, j'espère qu'il n'y a pas de Rwandais là. C'est simplement que les Congolais. Les Américains ont compris que les Congolais ont une défaillance de cette guerre-là. Puisque Les Rwandais nous ont confisqué des villages, plus de 52 000, un des villages des Congolais. Nous sommes en faillite.
Oui, Godé.
Je vais vous dire.
Oui. Oui, quelle est votre préoccupation? On n'a plus beaucoup de temps, passez directement à la préoccupation. Quelle est la question que vous adressez à l'invité parce qu'on n'a plus beaucoup de temps?
L'invité, d'abord, je vais poser la question. Si les deux pays ne s'obéirent pas à cette grève de 2 semaines-là,
oui,
quel sera le sort de ces pays-là?
D'accord. Si les deux semaines se paient, oui,
ne se respectent pas. Les deux, en Angola, on a déclamé vers les années 92, 1 mois. Pourquoi chez nous, 2 semaines, se paient avec les 3 millions de réfugiés, se paient?
D'accord.
On peut encore augmenter. Et le souhait, on puisse demander aux Rwandais de retourner chez eux pendant les 1 mois. Il va encore accorder.
Merci Godé. Eric Kamba, votre part. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Godé avant de terminer?
Oui, merci beaucoup pour la question de notre frère. Hein. C'est comme je vous dis, je comprends son émotion. Hein. Nous avons perdu, nous perdons beaucoup de gens à l'est là-bas et ça fait très mal. Et la question qu'il pose est très pertinente. Quel est le sort de ceux-là qui ne vont pas respecter les mesures de trêve humanitaire? Mais l'Amérique sera mise à l'épreuve. Vous savez, l'Amérique a beaucoup de cartes, a beaucoup de choses qu'il peut faire quand on ne respecte pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous suiviez du temps de Obama. Il y a eu, à cause de travail que nous avions fait aussi ici aux États-Unis et partout, le gouvernement Obama avait gelé l'aide financière qu'on donne souvent au Rwanda. Parce que vous savez, le Rwanda ne peut pas vivre sans la guerre au Congo là-bas. Le Rwanda, sans l'aide financière qu'il reçoit de l'Union européenne et des États-Unis, et ce n'est rien. Donc, on avait gelé ça et le Rwanda était revenu. C'est à l'époque de Kunda Batware là, etc. Et le Rwanda était revenu en ordre. Donc, les États-Unis a beaucoup de choses qu'il peut faire pour obliger les gens à respecter ce qu'ils disent. Mais comme je ne sais pas ce qu'ils vont faire, donc je ne mérite pas que mes confrères, mes tues, pensent que je suis pour l'Amérique. Non. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ce sera une bonne occasion de voir ce qu'ils peuvent faire au cas où les mesures qu'ils ont prises ne sont pas respectées. Mais je sais qu'ils ont beaucoup de moyens pour obliger qui que ce soit à respecter ce qu'ils demandent.
D'accord. Kadhafi
pense que
Le souhait
il faut
du
seulement
Kadhafi...
aller au cessez du feu.
Cesser le feu.
Cesser le feu et faire respecter ça. Et comme ça, on aura la vie sauve. Voilà.
Bien. Eric Kamba, coordonnateur de l'ASBEL CADA, Congo Action pour une diplomatie agissante. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, mon frère.
Et oui, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien. Okapi Service, merci de l'avoir suivi. Billy Landry Betou était à la mise en onde de Tati Mapuko, a assuré la coordination et la réalisation de cette émission de la vie au quotidien. Au micro, Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence et la paix et excellentes conditions d'écoute des programmes sur Radio Okapi.